Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal de 52 radios partenaires dans tout le Niger. À Zender, vous écoutez cette émission sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Chukura sur le 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème « Comment éviter l'attitude dépressionnaire après les échecs aux examens scolaires chez les élèves ». L'année scolaire est toujours bouclée par des examens, que ce soit au niveau primaire, moyen ou supérieur. Les résultats de ces examens qui permettent de passer d'un cycle d'enseignement à un autre sont peu reluisants, et ce malgré les efforts consentis par les différents candidats, d'où de profonds sentiments de tristesse voire de découragement. Quels sont les facteurs des échecs scolaires? Quels sont les impacts des échecs sur les candidats? Est-ce que le système est efficace pour nos élèves et nos écoles? Comment atténuer l'impact de ces échecs sur nos élèves? Pour discuter, nous avons invité Dr Abdelwahab Soumana, socio-anthropologue à l'Université André Salufou de Zender, Elhadj Siraji Rabiou, inspecteur pédagogique régional, Hajia Ouma Elhadj Abani, cadre de l'éducation, parent d'élèves, actrice de la société civile, Koulibaly Abdrahman, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger de Zender. Nous avons également avec nous Dr Moussa Jibrillah, médecin psychiatre, enseignant-chercheur à l'Université André Salufou de Zender. Très souvent, les échecs sont mal digérés par les candidats qui tombent dans la dépression.
Moi, je suis réfugié. Vraiment, je me sens mal. Je me sens triste, quoi, à propos de ce résultat. Oui, on a fait de notre mieux, justement, avec tous nos efforts même. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, quoi.
Docteur Moussa Jibrillah, vous êtes médecin psychiatre. Pourquoi l'échec fait mal?
Merci pour l'opportunité que vous nous accordez. On se réfère donc, comme c'est des élèves, aux différents dictionnaires. Et le plus utilisé, c'est tantôt Robert, c'est tantôt Larousse. Mais quand vous regardez sur quoi l'échec, on va vous dire l'échec fait allusion à un résultat négatif, donc de quelque chose que vous avez essayé d'avoir. Ou bien donc, ça a tendance à donner comme définition un manque de réussite ou à une défaite. Il y a des gens qui ont fait des recherches, dont un psychologue qu'on appelle Antoine Staff. Donc, et dans ses recherches, il dit que l'échec fait mal parce que la personne a perdu confiance en soi, d'autant plus qu'il n'est pas valorisé socialement. Ça donne tendance à ce qu'on appelle la blessure narcissique. Donc l'échec fait partie donc de la construction du psychisme, donc de notre cerveau, de notre pensée. Et ces personnalités narcissiques, ça veut dire que c'est des personnes qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Il y a une surestimation de leur valeur. Donc si la personne est dans cette dynamique-là, vous voyez, et qu'il doit échouer, et il pense qu'au point de vue social, il est dévalorisé, vous voyez ce que ça fait, ce sentiment d'échec. Et c'est pour cela qu'effectivement, l'échec va faire mal.
Alaïs Raji, quelle analyse faire des résultats de cette année au BEPC et au BAC?
Merci, Maman Sani. Les résultats, on doit les regarder sous plusieurs angles. Si on regarde les résultats bruts, autour de 33%, que ce soit les BEPC et les BAC, on constate que les deux tiers des élèves sont déclarés réfugiés, que ce soit au BEPC ou au BAC. Donc, de ce point de vue-là, c'est un résultat médiocre. Mais si on regarde maintenant en termes de input-output, qu'est-ce qu'on a mis pour arriver à ça? Et là, une autre appréciation. Donc ça, ce résultat-là peut être acceptable. Maintenant, ce résultat renferme des disparités, d'énormes disparités, selon les différents types d'enseignement, selon les sexes, l'enseignement professionnel au niveau régional, professionnel et technique avec un taux d'environ 64%, l'enseignement général avec un taux autour de 29%, c'est que la région se retrouve avec un taux sensiblement de 32%. Et entre les villes et les villages, la ville fait un taux d'environ 38%. Tandis que hors de la ville, le chef de département est à l'intérieur, ça tourne autour de 20%. Entre les sexes, et là aussi les disparités au niveau de villes et villages. En ville, les filles représentent près de 40% des candidats et ont été plus performantes que les garçons. Tandis que hors de la ville, donc les filles ne représentent à peine 15% des candidats et ont été moins performantes que les garçons. Disparité au sein de l'enseignement général entre les sexes. Série A, une moyenne sensiblement égale à 34%. Série D, la moyenne régionale est inférieure à 15%. C'est 14, quelques%. Vous avez des établissements entiers qui ont fait néant en D, en ville et hors de la ville. Du point de vue effort sorti de ce qui a été investi, le résultat peut être acceptable. Mais si on les regarde comme ça, les deux tiers des enfants sont déclarés refusés. Donc, le résultat est médiocre. Donc, maintenant, c'est un examen. Généralement, c'est un triangle. Il y a les candidats, il y a les épreuves, il y a le système de collecte pour proclamer les résultats. Si ça ne va pas, si on regarde ce triangle-là, les épreuves, en tout cas, on les a analysées, nous, à notre niveau, on les a trouvées acceptables. Le système de collecte fait rarement d'erreurs. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup de problèmes, je vais dire les jurys de correction et de pour collecter, proclamer les résultats. C'est fait à la machine, c'est généralement acceptable. Maintenant, il se pose un problème au niveau des enfants qui viennent, qui, en réalité, on ne sait pas de quel niveau ils sont. 30% des programmes en seconde, 40% des programmes en primaire, l'enfant se trouve en terminale. C'est ça que j'ai dit, en regardant ce qui est rentré et ce qui est sorti, le résultat peut être dit acceptable.
C'est ça.
Parce que généralement, certains sont en terminale, mais ce n'est pas leur classe. Ouais. Ils ne sont pas dessinés.
Hadja Ouma, quel commentaire faites-vous de ces résultats?
Merci Maman San. Moi, je dirais que le résultat vraiment reflète, en tout cas, le niveau des élèves. Tout à l'heure, Rabi vient de le dire, compte tenu des moyens mis à la disposition de ce ministère-là. Donc, je peux dire que c'est le niveau, c'est ce qui a été semé, qui a été récolté. Et aussi, il y a les élèves qui sont habitués à des facilités. Ça, il faut reconnaître. Ils ne font pas d'efforts. Ils n'ont pas d'esprit de compétition. Avant, les élèves avaient un esprit compétitif. Je ne veux pas que mon camarade ait 2 ou 3 points de plus que moi. Je surveille ses notes, il surveille mes notes. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ils sont habitués à des tricheries. Or, quand il s'agit d'un examen, les chances sont très réduites pour permettre à un élève de tricher. Donc voilà pour moi, en tout cas, c'est ça là qui fait que le résultat que nous avons, ça reflète vraiment ce que les élèves ont semé. C'est leur niveau, comme ça.
Docteur Abdelhab, quels sont les principaux facteurs qui expliquent le faible taux de réussite aux examens, surtout au baccalauréat?
Merci beaucoup, M. Mansani. Comme l'ont dit les premiers intervenants, certains facteurs transparaissent déjà à partir de ce qu'ils ont dit. On est tous d'accord, à l'exception de Koulibaly qui n'est pas encore intervenu, qu'il n'y a pas de niveau. Donc les élèves ne sont pas dans leur classe normale. Ils sont en terminale, mais ils ne sont pas des élèves de terminale. Ils sont en troisième, mais ils ne sont pas des élèves de troisième. Ça veut dire que c'est des élèves qui sont en terminale, mais ils n'ont pas le niveau d'un vrai élève de terminale. Ils sont en troisième, mais ils n'ont pas le niveau d'un vrai élève de troisième. Donc là, il y a donc des facteurs vraiment du système d'enseignement lui-même qui est aujourd'hui plus ou moins à coercition, je ne vais pas dire zéro, mais le niveau de coercition est très bas, de sorte que le relâchement a été plus ou moins général au niveau des élèves. Ça veut dire qu'ils ne se sentent plus contraints de travailler parce que l'État lui-même a laissé les choses pourrir pendant plusieurs années, de sorte que le public, c'est l'école de ceux qui n'ont pas les moyens. Et le public, c'est aussi des enseignants qui ne se sentent pas très gênés de voir certains résultats. Puisque ça sort des fois de leur propos. Hey, écoutez, nous on est là dans tous les cas. Celui qui veut étudier, on l'accompagne. Celui qui veut échouer, on l'accompagne. Je le dis en toute modestie devant le pédagogue, ça ne se dit pas quand même. Partant de là, l'élève qui n'a pas encore conscience de ce qu'il est, de ce qu'il attend, ben lui aussi il fait un relâchement. Il y a des facteurs familiaux, ça il faut le savoir. Parce que tout le monde dit qu'il y a la baisse de niveau. Il faut des remédiations, il faut des répétiteurs. Ce n'est pas toutes les familles qui ont des répétiteurs. Or aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu la seconde classe de chaque élève. Dans le temps, on peut faire tout un quartier. Il n'y a pas plus de 2 maisons dans lesquelles on fait remédiation pour les élèves. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Et du coup, ceux qui ne sont pas dans ces possibilités d'avoir des cours de remédiation, des cours de répétition, se sentent abandonnés. Ils pensent que, bon, dans tous les cas, moi, je n'ai pas de répétiteur. Tout ce que j'amène comme résultat, c'est acceptable. Il y a aussi les facteurs politiques. Le facteur politique fait en sorte que les enseignants ne sont pas sanctionnés pour ne pas bien travailler, pour ne pas bien se conduire, ainsi de suite. Et les élèves non plus. Ce qu'on connaissait dans le temps, l'inspection était vraiment très coercitive. À l'époque, quand un conseiller passait chez vous, hein, vous savez très bien ce que ça donne. Et de sorte que les enseignants faisaient tout pour ne pas se prendre dans l'erreur. Mais aujourd'hui, bon, tout s'arrange. En dehors de ça, vous avez des facteurs socioculturels. Et parmi ces facteurs-là, Aja a évoqué un. Aujourd'hui, on est tellement habitué à la facilité, de sorte qu'on ne veut plus fournir d'efforts. On peut tricher partout, jusqu'à des enseignants qui se permettent de le dire, prenant un temps pour tricher. Donc ils sont habitués à ça. Sans oublier les corruptions, les copinages, et les filles qui ont toujours de très bonnes notes à l'école. J'ai été un peu désarçonné par les résultats que l'inspecteur a donné, que les filles ont apporté de très bons résultats. Je retire un peu mes griefs. Tout de même, il y a cet état de fait. Pour les garçons, ceux qui ont les cours de remédiation, les enseignants qui leur font cours leur donnent les fuites des sujets qu'ils amènent aux évaluations. De sorte qu'ils ont de très bonnes notes à la maison. Et les parents vous trouvent dans les jurys pour dire non, moi mon enfant a toujours des 14, des 15, et voilà. Ben, c'est pas le même, si c'est pas le même milieu. L'autre facteur aussi, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de tourner carrément le dos à la langue française? Je ne fais aucun lien avec ce qui se passe entre la France et le Niger. Mais je voudrais dire qu'il y a au moins plus d'une dizaine d'années, c'est comme si personne ne cherche à améliorer son niveau en français. Or, les épreuves sont composées en français, puisque vous n'êtes même pas en train de comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais vous ne pouvez pas réussir. L'autre facteur que moi je vais évoquer, il y a le facteur psychologique. L'examen, un simple bruit peut créer des trous de mémoire à l'élève. Il a biché, mais il n'a pas assimilé le cours. Donc, dès qu'un petit bruit lui fait perdre le fil, c'est fini. Il devient une machine qui en marche, on a éteint. C'est fini. Le dernier facteur sur lequel je voudrais un peu insister, c'est que dans nos sociétés, ça fait un bout de temps où on pense que les examens, c'est fait pour échouer les gens. Beaucoup qui ont cet esprit-là, on fait cela pour échouer. Ça fait des bruits un peu partout.
Oh, justement, c'est la question que j'aimerais vous poser. Quel est le regard de la société sur les élèves qui échouent aux examens?
Ah ben, donc, la société classe déjà les élèves. Parce que la majorité de ceux qui réclament vous disent que mon enfant est bien à l'école, ça veut dire que lui n'a pas accepté le choc. Donc là, c'est un premier élément. Deuxième élément, en fonction des compartiments, il y en a qui comprennent. Ce que les deux premiers intervenants ont dit, c'est que c'est le résultat de leur niveau. Eux et ceux qui les ressemblent, ceux qui leur ressemblent, ont quelque peu accepté les résultats. Et il y en a qui ne savent même pas ce qui se passe. Donc les regards varient.
Alès Raji, quel facteur justifie selon vous ces échecs, en plus de ce que le docteur vient de citer?
Bon, moi j'aimerais aller un peu en profondeur. Si vous regardez les chiffres de l'OBEX, ils ont donné pendant ces 10 dernières années les résultats du bac. Ça varie de 32 à 38%. Ça n'a jamais été 40%. Qu'est-ce qui se passe? Pour avoir des résultats, il faut des enseignants motivés et quelques entrants pédagogiques et didactiques. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. Prenez à titre d'exemple, de 1963 à 1982, avant les grands dégâts des Andes, le Niger n'a jamais fait...
Les grands débats des Andes.
Excusez-moi, c'est l'image de l'étudiant qui parle.
Tout à fait.
Le Niger n'a jamais réalisé un taux de réussite au EPC inférieur à 60%. De 1983 à la date d'aujourd'hui, seulement 3 fois le taux de réussite a dépassé 50%. 2005, 2009 et 2023. Ça n'a jamais été atteint 60%. À partir de 82, l'État a cessé d'investir dans les écoles, que ce soit au lycée ou au bac. Les entrants ont été normalement dissous, donc il n'y a plus de moyens. C'est dit, ce résultat-là peut être trouvé excellent devant des enseignants qui n'ont même pas de quoi préparer. Ça fait au moins 15 ans, 17 ans que je suis dans l'encadrement. Il n'est jamais arrivé une année dans ce pays-là où on a dit voilà des livres de préparation à tous les enseignants. Ils sont obligés de se déporter avec des vieux cahiers. De la même manière que le docteur trouve chez lui les matériels pour prendre des tensions, pour mesurer la température du patient, il n'est pas à la charge de l'enseignant au niveau de l'enseignement secondaire de payer les livres de préparation. Donc ce sont ces facteurs-là. L'État est presque absent. Pour nous, il fallait redéfinir la politique de financement de l'éducation.
Aja, où situe la responsabilité des échecs selon vous?
En tout cas, moi je dirais que nous sommes tous responsables. D'abord, il y a la faute de l'État. Avant nous, au primaire, je sais que périodiquement, il y a des conseils pédagogiques, il y a des inspecteurs qui venaient en classe voir ce que l'enseignant est en train de faire. Pourquoi ne pas le faire au collège et au lycée? Un suivi, en tout cas, très régulier des enseignants. Il paraît qu'on les informe même avant d'arriver. Or, au primaire, ce n'est pas comme ça. Tu dois être toujours à jour. Quand on vient t'encadrer ou te suivre, tu dois être toujours prêt. Et les moyens, comme vient de le dire Rabi, ne sont pas mis à la disposition des enseignants. Il y a des années où les enseignants ont acheté des cahiers de préparation. Ce n'est pas normal. Et il y a aussi la démission des parents. Quels sont les parents qui vont à l'école pour dire que comment se comporte mon enfant ou quel est le travail de mon enfant, quel est le résultat? Ils sont rares les parents qui font ça. Peut-être des parents qui sont intellectuels. Eux aussi, ils sont rares. Ils ont leur activité. À la maison, quand l'enfant il va, il prend le cours, il vient, il dépose le cahier. Il va au football, si c'est la fille, elle fait ce qu'elle veut, parfois on ne la suit même pas. C'est demain quand elle va à l'école qu'elle va chercher son cartable pour aller à l'école. Donc il n'y a pas de suivi. Et aussi les enseignants. Il y a des enseignants, comme on dit, des répétiteurs. Moi je suis contre qu'un enseignant qui tienne l'élève à l'école et qui soit aussi son répétiteur. Ce n'est pas normal. Et sur, les élèves ne sont pas motivés. Ils n'ont pas l'esprit de compétition. Ils sont habitués à des tricheries. Et il y a aussi parfois le système. Le Niger a une habitude. Quand on peut prendre un programme, on applique. Maintenant, on n'évalue pas pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais on amène encore un autre.
Monsieur Koulibaly, vous êtes le secrétaire général du Sénat Zender. À quoi imputer le faible taux de réussite selon vous?
Merci, monsieur Mamassani. Et avec tout ce que les autres ont pu à parler, il y a une responsabilité des enseignants quand on parle du niveau des élèves qui est là. Certes, même si les élèves ont des répétiteurs à la maison, ont des enseignants ou d'autres qui les tiennent à la maison pour les aider, l'essentiel, c'est ce que l'enfant est en train de recevoir en classe avec son enseignant et aussi avec ses camarades élèves. Comme ce que tout un chacun a pu constater dans ce pays aujourd'hui avec le nombre des enseignants contractuels et avec le coût de vie, il y a les enseignants qui sont là, il y a les classes, il y a les élèves, mais le fond de ce qui est donné ne reflète pas une très bonne éducation ou la qualité de l'éducation. L'enseignant qui, avec aujourd'hui les maigres revenus, n'a pas l'esprit tranquille pour aujourd'hui, par exemple, au primaire comme au secondaire, pour bien préparer sa leçon. C'est là la base de la réussite d'une bonne leçon en classe. Il faut que l'enseignant ait tous les matériels, comme ce que l'inspecteur vient de dire. Des fois, c'est par WhatsApp, par Internet, ou il va se débrouiller avec des photocopies, des folicopes pour pouvoir préparer. Et même en préparant, il n'a pas l'esprit tranquille. Il est en train de réfléchir, par exemple, sur son sac de riz qui est en voie d'être fini ou sur des factures qu'il n'a pas payées. Presque, on n'a même pas le droit aujourd'hui de tomber malade. Quelqu'un qui a 5000 francs de salaire aujourd'hui, avec la chérité de la vie, elle ne peut pas assurer le quotidien à sa famille jusqu'à ce que, par exemple, épargner quelque chose, même en cas de maladie, d'aller prendre à charge ou penser même à son truc vestimentaire. Donc, vous voyez, cet enseignant n'a pas le moral avec lui au moment de faire sa préparation. La vocation, dans le temps passé, nos enseignants, ceux qui nous ont enseigné, qui avaient l'amour d'enseigner, aujourd'hui est devenu une haine contre même ce qu'on est en train de faire. Donc, vous voyez, avec cela, on ne peut pas avoir un bon rendement. L'enseignant, j'ai la chance d'être parmi l'équipe d'encadrement, conseiller pédagogique, durant des années aussi. Il y a d'autres, quand tu le retrouves dans certaines situations, en situation de classe, devant des élèves, tu auras même pitié. Des fois, tu es obligé de ne pas faire le bulletin. Parce que ce que l'enseignant est en train de faire, ce qu'il a dans son cahier de préparation, ce que ses élèves sont capables de faire, c'est diamétralement opposé. Ou deux fois, tu appelles même à consoler l'enseignant. S'il te plaît, fais ceci, fais cela. De le supplier pour qu'au moins, il arrive à avoir une tranquillité d'esprit et pouvoir revenir demain à l'école. Dans le temps passé, quand on entend le bruit d'une DT, les enseignants tremblent, ils font tout pour qu'ils soient à jour, pour donner le meilleur d'eux-mêmes devant l'équipe pédagogique. Mais ces dernières années, ce n'est pas le cas. Le carburant, personne ne donne le carburant. Si j'ai bonne mémoire, durant toute cette année, les encadreurs pédagogiques, je ne sais pas, ceux du secondaire, je pense qu'ils n'ont pas eu quelque chose. C'est ceux du primaire qu'ils ont eu des miettes. Je peux dire des miettes, quelque chose qui n'atteint même pas 30 000 francs. Pour assurer le carburant d'une année, sillonner les écoles, par exemple, tu peux faire 30 km, 40 km, 25 km pour aller dans une seule école. Les gens sont en train de les faire de leurs propres moyens, de leur poche. Il n'y a pas de renforcement des capacités. L'inspecteur est là pour en témoigner. Nous, par exemple, au secondaire, si ce n'est pas avec quelques rares ONG ou l'année passée avec le projet LIRE, une formation de masse qui va concerner tous les encadreurs pédagogiques n'a pas eu lieu, si je peux le dire, même à l'échelle nationale, à plus forte raison, à l'échelle régionale. Donc les enseignants sont stagnés. La pédagogie, on dit, elle est dynamique. Elle évolue.
Elle se réagit. Certains parents pensent que les organisateurs des examens falsifient les résultats en faveur d'autres. Qu'en est-il?
Bon, je ne sais pas si cette lecture persiste, ça fait des années, mais il est très difficile, parce que c'est presque le même mécanisme au niveau du baccalauréat et au niveau du BPC. Il peut y avoir parfois certaines erreurs, par exemple du jury, ou parfois des manipulations des anonymats. Mais là aussi, aussitôt c'est bloqué, il faut qu'on rectifie. Mais on ne peut pas prendre les résultats de quelqu'un pour les remettre à l'autre. Il peut y avoir parfois quelques tricheries. Parfois, si ce n'est pas découvert, certains peuvent, s'ils arrivent à percer l'anonymat, peuvent admettre ceux qui ne sont pas admis. On ne peut pas prendre pour quelqu'un pour donner à un autre. Le véritable problème qu'il y a ici, dans les triangles que tout à l'heure j'ai parlé, il y a les enseignants et puis il y a le groupe d'évaluation. comme tout a été lâché par l'État, permettez-moi de vous montrer deux mots sur l'encadrement. Mm-hmm. Donc, l'encadrement, il est que des noms. Si vous prenez par exemple, au niveau de l'enseignement secondaire, tous les enseignants du collège, maths, SVT, du lycée au collège, il y a un seul inspecteur. En maths, il y a un seul inspecteur. Comment on peut faire 1000 enseignants, combien on va faire par jour? Celui qui va faire jusqu'à Tanout, jusqu'à Tesca, c'est ça. Combien de temps on va faire? Au niveau même des conseillers, trois conseillers sont susceptibles de voir les élèves dans les classes de lycée en maths pour toute la région. À SVT, il y en a aussi deux. C'était trois, un est parti en études. Pour toute la région, ils n'ont même pas de moto. Comment ils vont faire? Avec quels moyens? Donc c'est ce que j'ai dit, on doit venir revoir la politique de financement de l'éducation. Maintenant, l'autre danger qui est là, qui est peut-être, quand je dis les triangles, l'élève, moi, généralement, en cas d'examen, on l'accorde moins de 5% de responsabilité d'échec. Ou c'est le système, ou bien c'est l'autre côté maintenant, c'est l'évaluation d'une manière générale dans l'enseignement des Niger qu'il faut revoir. Je vous donne un exemple. Moi, je m'intéresse à la matière dite la plus exacte. Comment pensez-vous que plus de 40 professeurs de maths, dont une bonne partie ont l'habitude d'aller au bac, on les réunit, on leur donne une épreuve de 4 heures, la même copie pour corriger. Les notes varient de 4 à 6 sur 20. Même épreuve, il y a le corriger, il y a le même barème. On a remis ça à une quarantaine d'enseignants au même moment pour qu'ils corrigent la même copie.
La même copie.
Et ça, je parle de maths. Quand on descend, dans le truc, c'est autre chose. Ce qui fait qu'après un examen, quand vous allez réchanger le correcteur, vous allez avoir un autre résultat. Ça dépend de la fiabilité de nos évaluations. Il est difficile qu'une évaluation soit correcte. Si vous prenez l'écart, ça fait 12 points. Fois 5, ça fait 60 points. Largement de quoi faire échouer ou admettre un enfant. Après correction collective de tous les enseignants réunis et l'encadré qui est présent, la COFI est arrivée à 8 sur 20.
À 8 sur 20.
À 8 sur 20. Une autre, faite par 21 enseignants au niveau 3e. Ça, c'est lors de formation des enseignants. Ils ont corrigé au même moment, dans la même salle. On leur a remis la copie. Ils ont corrigé d'abord au tableau. On a dispatché les barèmes. Eh bien, les notes varient de 0 à 20. Math, je ne parle pas de philo. Il nous faut une forme du sujet de nos examens et parfois des corrections détaillées sur le plan sur lequel les enseignants vont prendre avec la répartition des points. Parce que certains regardent seulement les résultats. Donc, mais sinon, arracher pour qu'un donne à un autre, ça vraiment, ça n'existe pas.
Monsieur Koulibaly, le mode d'évaluation, selon vous, est-il efficace?
Bon, d'après ce qu'on vient de suivre avec monsieur l'inspecteur, qui est spécialiste à la matière, donc vous voyez, à base de ces exemples, le mode n'est pas efficace. Et nous, surtout, quand vous revenez encore au primaire, vous allez voir le constat est plus même terrible par rapport à ce que l'inspecteur vient de dire. Vous donnez par exemple une dictée aux enfants ou rédaction. Les enfants, chacun a sa manière d'écrire. Et des fois, le correcteur, dès qu'il regarde, il n'arrive pas à déchiffrer le premier mot. Il va tout barrer et mettre zéro. Et quand vous portez vos verbes, vous lisez attentivement, vous allez voir que ce que l'enfant est en train d'écrire, c'est très intéressant. Certes, des fois, c'est au niveau de l'élaboration ou des sujets qu'on se pose des questions. Beaucoup d'enseignants n'ont pas de formation sur l'élaboration du sujet en tant que tel ou des trucs d'examen. Quand vous prenez, par exemple, en termes d'items, des questions, il y a toujours de confusion. D'autres confondent items, d'autres confondent questions, si elle est ouverte, si elle est fermée, si elle doit nécessiter telle réponse ou telle réponse. Donc, ce qu'il faut revoir, c'est de faire appel à tous les spécialistes. Pas faire ce qu'on a l'habitude de faire dans ce beau Niger, qu'on réunit les gens pour un objectif bien déterminé. On fait des jours, les gens prennent leur perdium, leur pause café et autres, mais sans pour autant faire sortir quelque chose de clair. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de précis et concis. Voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on doit mettre en application et que ceux qui vont élaborer le sujet, qu'ils fassent la différence entre la question, les items, les réponses. Quand vous partez dans certains pays, il y a même des logiciels qu'on utilise pour tester la fiabilité des items ou des questions à poser aux enfants. Vous prenez un sujet ou vous prenez des questions en fonction du programme, du niveau d'exécution. Donc les items, vous les placez avec les items alpha de Chromebooks. Vous allez voir si les questions ne sont pas trop difficiles ni moins difficiles pour les enfants. Donc je prends juste ce qui est moyen et aussi avec des réponses claires et précise.
Hadja, dans quel état se mettent les élèves après l'échec?
Il y en a qui font des dépressions. Il suffit qu'on dise qu'ils ne sont pas admis. On dirait que c'est la fin du monde pour eux. Ils n'arrivent pas à digérer cet échec-là. Certains, c'est normal parce qu'ils ont travaillé toute l'année, mais ils n'ont pas été dans leur assiette pendant les jours des examens. Et s'ils échouent, ils n'acceptent pas ça. Donc, ils digèrent difficilement et les parents aussi ne préparent pas l'enfant. Déjà, il faut préparer l'enfant le résultat doit être deux. Soit c'est l'admission ou bien c'est l'échec. Même en cas d'échec, il faut déjà préparer l'enfant que ce n'est pas la fin du monde quand on échoue. C'est même une école. Un échec, c'est parfois même une école. Tu vas redoubler d'efforts et savoir où est-ce que tu as des insuffisances. Et maintenant, prochainement, tu vas, tu recules et tu vas mieux sauter. Bon, et il y en a aussi qui, quand ils échouent, donc ils arrêtent tout. Ils ne cherchent pas à reprendre la classe ou bien à reprendre l'examen. Parfois, ils vont à l'exode. Parfois, ils abandonnent totalement les études et ils font autre chose. Mais ceux qui ne sont pas bien supportés par les parents, en tout cas, c'est la dépression. Il y en a même qui finissent, en tout cas, au service de psychiatrie au niveau de l'hôpital.
Docteur Moussa Djibrilla, médecin psychiatre, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant quand il y a échec?
Il faut comprendre que quand nous échouons, on a du ressenti. Et quand on a ce ressenti-là, cela va engendrer en nous toute une batterie d'émotions inconfortables qu'on va vivre. Comprenez par là des sentiments de honte, des sentiments de tristesse, des sentiments d'inquiétude. Et souvent, c'est la colère, des sentiments de colère. Ces émotions font mal, il faut le connaître. Comme ça fait mal là, notre instinct va chercher solution. Comment pallier à cette douleur que j'ai vue? Comment est-ce que je vais essayer d'échapper à cette déception que ces sentiments-là ont éprouvé? C'est ainsi que maintenant l'organisme, de manière naturelle, va essayer de faire un mécanisme de défense pour pouvoir atténuer sa douleur. Maintenant, comment atténuer la douleur? Il va vouloir refouler. Non, je n'ai pas échoué. Non, les notes là qu'on m'a données ne sont pas mes notes. Ou bien la personne va même éviter qu'on en parle. Donc, il fait un mécanisme d'évitement. Ceux qui ont la chance, à travers ces mécanismes-là, peuvent rapidement se remettre. D'autres ne peuvent pas rapidement se remettre parce qu'on n'a pas le même mécanisme pour essayer de faire face aux situations quotidiennes qui se posent à nous. En cas d'échec, notre cerveau va libérer une substance qu'on appelle cortisol. Et ça là va essayer donc d'amener d'autres perturbations.
Quelles conséquences en cas d'échec, docteur Moussa Djibrilla?
Donc une fois qu'il a échoué, donc l'estime qu'il a et la confiance qu'il a en lui, il est sûr, il est convaincu, ça va diminuer. Donc ça vraiment c'est une conséquence psychologique, il se sent un peu dévalorisé. Déjà vous avez utilisé un terme qui relève donc de la médecine dépressionnaire. De plus donc voilà, dans les conséquences, il y a un risque de dépression. À cela, il y a de l'anxiété. Donc ça aussi, c'est une pathologie. Il est là tout le temps, dans l'anxiété. Mais il faut comprendre que quand on échoue, cela nous permet d'apprendre à apprécier la réussite. C'est quand tu échoues que tu comprends que c'est quoi même réussir. Et à être reconnaissant de ce que nous avons. Il y a la question de dévalorisation. Ça va entraîner des sentiments de menace et d'insécurité. Les parents, si c'est l'enfant, vous allez voir des tendances, le plus souvent à l'isolement, au retrait social, ou bien certains vont chercher à avoir tendance à la consommation des substances psychoactives. Certains vont avoir tendance à la fugue. Quand ils ont ces tendances-là, maintenant, d'autres vont rentrer de là, dans la pathologie psychiatrique. Et quand on rentre dans ces pathologies psychiatriques, il peut avoir la crise de panique. Il se lève, il commence à crier. Et il peut avoir aussi les autres crises purement psychiatriques, profondes. Comme solution pour remédier à l'échec, il faut rapidement dédramatiser la situation. C'est essentiel. Eh bon, ça arrive, donc dans la vie d'un homme, l'homme doit être fort. Et il y a plein d'exemples là qu'on peut lui poser à l'enfant pour qu'il puisse comprendre que bon, ça n'a pas commencé avec lui. Et ça ne va pas finir avec lui. Si il veut en parler, comprenez son mécanisme de leçon, profitez pour l'amener. Bon, voilà, donc, comme toi-même, tu as dit que tu as échoué, dis-nous quelles sont les leçons que tu as tirées de ton échec. Il est important que, à partir de l'enfant de lui-même, bon, maintenant, bon, voilà, comme tu as échoué, quelles solutions tu penses qu'on peut faire? Des solutions rationnelles qu'il faut discuter avec l'enfant. Le refoulement, il faut laisser l'enfant s'exprimer et faire sortir les choses pour qu'ils puissent être libérés. Donc, la confiance va renaître.
Docteur Abdelhab, quelles conséquences ont ces échecs sur les candidats?
Merci. Avant de venir aux conséquences, permettez-moi d'ajouter à ce qu'ont dit M. Koulibaly et inspecteur Soraja. Le système d'évaluation. En réalité, nous avons un système d'évaluation peu efficace, sincèrement. En réalité, quand vous prenez ça, beaucoup de sujets, et ça, c'est jusque chez nous, hein, à l'enseignement supérieur, concrètement, on se pose les questions, mais qui est-ce qu'on évalue et exactement qu'est-ce qu'on évalue? Nous sommes d'abord dans quel type de système d'enseignement? Quand vous voyez les questions, mais posez-vous la question, quel est l'objectif qui a été évalué? Souvent, c'est ce que Koulibaly vient de dire en les éclatant dans les questions, les items. Est-ce que la question qu'on a posée, là où on pose des questions concrètes, là, est-ce que vraiment cette question évalue un objectif du cours? Ou bien c'est dans l'air tout simplement. C'est une question, c'est une phrase interrogative, c'est une question et c'est fini. Puisque nous avons ce problème-là, sérieusement. Et il y a aussi l'éthique et la déontologie du correcteur. C'est là qu'il faut vraiment des fois revoir. Ce que Koulibaly vient de dire, c'est une vérité. Il y en a qui oublient qu'ils sont en train de participer à la construction ou à la destruction de l'avenir de quelqu'un en corrigeant une seule copie. Donc je regarde, c'est quoi ces écrits? Ça fait vraiment échouer déjà. Lorsqu'il n'y a pas cette éthique-là, savoir que vraiment, c'est une amana que tu as dans ta main, des fois vraiment on fait échouer des candidats qui sont pourtant bons. Parce que les matières hautement coefficientées font échouer rapidement. C'est pourquoi des fois vous avez des réactions très déplacées des enfants. Il y en a qui pensent qu'ils ont vraiment travaillé, et c'est vrai, ils ont vraiment travaillé. Ben, l'examen, c'est l'examen, hein. Le système d'évaluation, les spécialistes de l'évaluation, comme le Jean-Marie Dequetel, c'est des grands spécialistes qui ont montré effectivement l'examen, l'évaluation crée toujours des surprises. Donc l'enfant ne peut pas le concevoir. C'est pourquoi vous allez trouver certains, comme ils l'ont dit, qui vont tomber dans la dépression. Certains qui vont dire non, c'est fini. Comme on le dit, école et moi là, c'est fini. Ben, il y a aussi des gens, hein, c'est des s'en-fous, c'est pas leur problème. La conséquence, c'est l'individu, ce que nous venons de dire. Sur sa famille qui pense avoir investi, parce que certains investissent réellement. Et finalement, l'enfant échoue, il voit qu'ils ont payé beaucoup de moins. Cet enfant-là, c'est un programme. Et des fois, donc, l'enfant, la famille est déprogrammée. Un niveau élevé, un plus élevé, l'État échoue. Chaque enfant qui échoue, c'est un échec de l'État. Le budget de l'éducation, donc, si c'est fait pour 10 élèves seulement, si deux échouent, l'année prochaine, ça va être pour 12 élèves. C'est deux personnes d'autres que l'État doit encore refinancer. Également des conséquences sociales. Par l'élève perd un peu son crédit auprès de ses pairs, il perd vraiment le crédit. Peut-être il a été de temps en temps un peu respecté, aimé, peut-être voilà, ainsi de suite. Il perd. Et en dehors de ça, vous avez des conséquences aussi, conséquences politiques. La conséquence politique, je parle au niveau de la gestion de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd des cadres. Des cadres prennent du retard. Les cadres de gestion de l'administration prennent du retard lorsqu'il y a ces échecs-là. Normalement, l'État devait se dire que l'échec d'un élève, c'est l'échec de l'État. Et par conséquent, se préparer lui-même à digérer cet échec-là. Et lors, pourquoi les conséquences sont de fois plus graves? C'est qu'aucune sensibilisation n'est faite dans ce sens. C'est rare de voir dans les classes que vraiment on rappelle aux élèves que vraiment l'examen c'est comme ça. Vous échouez, ce n'est pas c'est dur, mais ce n'est pas la fin du monde. Et que voilà ce que ça signifie l'échec. C'est une école, ça vous permet de vous remettre en cause. J'ai vu une élève de terminale cette année dans mon jury de bac. Lorsqu'elle est venue réclamer une copie, sa copie de français, elle a regardé, elle a dit. Ah, ok, ici. Je comprends maintenant. Voilà, l'année prochaine, je ne leur ferai aucun cadeau. Bon, nous, on a souri. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dis non. J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé. En fait, mais ce n'est pas une Nigérienne, enfin, d'origine. Ce n'est pas une Nigérienne d'origine. Donc, il y a cette conscience que les élèves doivent avoir. Mais chez nous, rares sont les élèves qui ont cette conscience. Rares sont les parents qui déjà leur apprennent que l'examen aboutir à l'échec comme à la réussite. Et rares sont encore en amont les parents qui apprennent aux élèves que l'examen se prépare dès le premier jour. On pense qu'on évalue un programme de 9 mois en 3 jours. Tout le monde sait que c'est humainement injuste. Mais jusque-là, les spécialistes n'ont pas trouvé autre moyen au plan national ou international pour évaluer les gens. Le système de devoir continue. C'est ce qu'on fait à l'école, mais on ne peut pas le faire au plan national. Et en même temps, il faut aussi que nous disions à nos enfants pour que les conséquences soient moins graves que l'échec n'est pas synonyme de médiocrité ou de nullité. Mais si on est dans la situation des parents qui montrent à l'élève que non, il ne doit même pas échouer. Ce n'est pas lui qui a échoué. C'est des fautes qui ont été commises. C'est ces notes qui ont été arrachées. Mais c'est normal que les conséquences soient assez grandes. Et souvent, Haja a dit qu'il y en a qui vont se retrouver à la psychiatrie, mais il y en a aussi qui vont se retrouver à la morgue, parce qu'il y en a qui se suicident aussi. Hein.
Elle a la même question, comment rendre ces conséquences moins graves?
Bon, pour rendre les conséquences moins graves, effectivement, comme il dit, il faut préparer les candidats. Il faut essayer de minimiser le nombre des élèves qui arrivent dans cette situation-là. Maintenant, il faut préparer les candidats pour le déroulement des examens et pour la prise en charge du résultat qui peut ressortir de cet examen-là. L'examen à lui-même, c'est une petite guerre, c'est un championnat. Parce que parfois, qu'est-ce qui peut échouer les enfants quand ils ne sont pas préparés? Les premiers jours, ça n'a pas marché. Il faut oublier pour continuer avec les restes. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Il faut que les enfants aient ce moral-là. Comment ça peut aller? Ça peut ne pas marcher les premiers jours. Mais quand ça n'approche pas les premiers jours, tu es découragé, tu laisses, et bien tu vas échouer. Ça, c'est une préparation psychologique qui revient aux enseignants et aux parents de faire. Il faut aussi maintenant préparer les enfants à comment les résultats peuvent être. Si tu peux bien être bien apprécié 12-14, ça peut arriver, tu es mal réveillé ou quelque chose comme ça, ou bien par les effets de correction, comme tout à l'heure en train de dire le docteur. Donc, ce sont les hommes qui corrigent, ce ne sont pas des machines. Parfois, il peut y avoir des petits écarts comme ça. Si tu n'as pas de chance, c'est Dieu qui a fait ça, tu n'es pas arrivé.
Je vais faire un tour de table avec cette question. Quelle proposition pour atténuer les conséquences fâcheuses après l'échec et comment améliorer les résultats scolaires, surtout au bac? Je commence par vous, M. Koulibaly.
Oui, bon, ça, c'est sensibiliser d'abord les élèves aussi, les élèves et leurs parents. Et comme ce que mes professeurs ont dit sur l'effet de l'échec en tant que tel, parce que nous, chaque fois, on dit pédagogiquement que l'échec n'est pas une fatalité. Ça peut servir de leçons ou de base. Tu as échoué cette fois-ci, tu peux t'armer de courage, redoubler de courage pour que prochainement tu puisses arriver. Moi, j'ai vécu l'exemple quand j'ai fait le premier test d'entrée à la fonction publique. Quand j'ai échoué, j'ai pris mes bagages, je voulais partir même à Libye. C'est mon grand-père qui m'a dit, mais pourquoi? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi? Si tu étais admis, tu peux te retrouver dans un autre danger, quelque chose comme ça. Et il m'a consolé, j'étais revenu. 3 mois après, on a relancé le concours et j'étais admis. Je pense qu'un enfant ou un élève qui a moins de 8, 7, 6 de moyenne, vraiment, quand il échoue à un examen, même lui, au fond de lui et ses parents, elle sait pertinemment qu'il a moins de chances de réussir. Et les cas de dépression, autres qu'on arrive à voir, c'est ceux qui ont 14, 12, 15 de moyenne. Vraiment des enfants qui sont très sérieux. Les parents sont convaincus, l'enfant aussi est convaincu qu'il va admettre. Mais très malheureusement, c'est les examens, l'enfant peut échouer.
Et là, comment améliorer les résultats?
Comment améliorer les résultats? C'est que nous avons dit, il faut d'abord songer au mécanisme même de l'évaluation de cet examen. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire concrètement pour que ces erreurs de correction et l'élaboration du sujet autre vraiment ne puissent pas pénaliser les élèves?
La même question.
Moi, je dirais le travail doit être fait à deux niveaux, et les parents et aussi les enseignants. Les enseignants doivent préparer en tout cas les élèves qui sont des candidats, leur montrer que si ça marche, c'est bien, mais si ça ne marche pas aussi, ça peut être une école. On peut se servir de cet échec-là pour améliorer, pour faire des performances prochainement. Et les parents aussi doivent sensibiliser les enfants, leur dire que bon, écoutez, c'est pas toujours qu'on cherche et qu'on trouve. On peut admettre, c'est bon, mais si on n'admet pas, ce n'est pas une fatalité. Il faut se servir de cet échec-là pour faire autre chose. Par exemple, revoir où est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, prochainement, redoubler d'efforts dans cette discipline-là pour pouvoir avoir un bon résultat.
D'accord. Docteur?
C'est vraiment de faire une sensibilisation à tous les niveaux, parce qu'il y a des missions qui préparent les candidats, comment remplir les feuilles, comment ceci. Je crois que ces missions-là doivent aussi intégrer dans leur cahier des charges des leçons de morale par rapport à la gestion des résultats. Peut-être aujourd'hui aussi, le système de proclamation des résultats, c'est tout est électronique. Vous cliquez, paf, chacun a son résultat, vous êtes admis, vous êtes refusé, voilà. Donc là également, c'est une nouvelle forme de proclamation qui va faire certainement ses victimes avant d'être incorporé dans le système. Pour améliorer, il faut d'abord améliorer le système éducatif. Qui enseigne qui sincèrement? Oui, qui enseigne qui? Et au niveau des correcteurs, là, on a pris des gens qui ont le bac brut. Qui enseigne, s'il vous plaît? Parce que tu as le bac, tu enseignes des élèves de terminale D quand même, dans certains points reculés. Des gens qui ont des diplômes de bac plus 2, qui ne sont pas de leur truc, c'est eux qui enseignent des matières pour lesquelles ils n'ont aucune compétence. Donc l'État doit songer à faire un nettoyage, sincèrement. Et pour les corrections aussi, des gens qui sont du ministère des fois, c'est eux qui viennent pour les corrections des fois, vraiment il y a des soucis. Donc il y en a qui ne maîtrisent pas la matière, et c'est eux qui corrigent, et ce n'est pas normal. Et le système d'évaluation aussi, est-ce qu'on s'assure d'abord que ce sujet évalue vraiment le cours? Parce que des fois, on a aussi des gens qui crient pour non, mais ça ne fait pas partie du programme. Pourtant, on l'a vu, il y a des examens là. Mais oui, donc comment on peut accepter des choses comme ça? Et il faut que l'État revivifie l'école publique. Parce que la majorité des échecs, c'est à l'école publique. Puisque l'État abandonne l'école. Aujourd'hui, l'école publique, c'est pour les autres. Y compris ceux qui y enseignent. Et si la qualité de l'enseignement est améliorée, il y a de fortes chances que les résultats soient améliorés. Et le dernier élément, c'est l'organisation des examens. Est-ce que vraiment tout le monde est mis dans les conditions pour faire l'examen? Là, je termine avec un propos de l'inspecteur qui l'a dit il y a 5 ans de cela. J'avais animé une conférence à l'ENSP en 2019 sur l'éducation. L'inspecteur Souradj était intervenu. Il disait qu'il ne faut pas tourner autour du pot. C'est qu'en réalité, notre système éducatif est plus ou moins sans objectif. On n'a pas d'objectif. C'est pourquoi les programmes sont changés sans être évalués. On change tant qu'on n'a pas d'objectif. Mais la quête de la souveraineté nationale dont on parle aujourd'hui doit mettre un accent particulier. Ça doit faire partie du 4e axe de la vision du président pour un Niger véritablement indépendant, les réformes sociales. Je pense que l'éducation doit vraiment occuper une place aussi importante que la sécurité. Puisque l'autre, c'est la sécurité physique. Pour que nous puissions vivre, respirer et ne pas être tués par les bandits, l'éducation, c'est la sécurité humaine. Il faut que nous soyons sécurisés dans nos intelligences. Et pour cela, il faut que l'école publique soit remise dans sa place. Sinon, l'éducation sera déjà une marchandise. Aujourd'hui, l'éducation est une marchandise.
Alors, Sraji, la dernière question, comment améliorer les résultats scolaires?
Bon, vous allez me permettre de faire une petite proposition pour diminuer l'échec. Je pense que là, pour la première, comment diminuer un peu les effets, qu'on doit faire un effort, c'est une proposition de plus, que les enseignants essaient de faire des évaluations du niveau des classes. Qu'est-ce qui amène parfois les problèmes? J'ai 14, j'ai échoué. Vous avez des centaines d'élèves qui ont 12, 13 qui ont échoué. Peut-être parce que les 12 et 13, 14 ne sont pas mérités, en grande partie. Si on essaie de faire de vraies évaluations à l'école, où chacun verra son niveau, vous ne serez pas en grande partie surpris du résultat du bac. C'est ça la première question. Maintenant, comment améliorer? Je résume juste. J'ai toujours, il faut que l'État revoie la politique de financement de l'éducation. On ne peut pas avoir des résultats comme ça et on ne peut pas avoir des résultats sans objectif. Je donne un petit exemple. L'Iran produit 450 000 ingénieurs par an. 500 000 d'ingénieurs par an. Elle est en train de défier toutes les puissances. Nous, combien nous voulons produire de quel type de cadre par an? Il n'y a pas ces objectifs-là. Et l'école est juste sur les papiers. Avant les années 80, quand on dit on a créé un CIG, déjà les classes, les labos, les 4 classes, la direction, chez les proviseurs, chez les directeurs, chez la maison de surveillance sont déjà construites. Maintenant, c'est un petit papier on donne. Nos élèves ont les bacs D et n'ont jamais mis pied au labo. À l'université, même les labos sont rares. Ils donnent à faire des licences sans laboratoire. C'est quelle école? C'est ce que je dis. Il faut qu'on finance pour que les candidats arrivent en classe d'examen en tant que candidat de classe d'examen. Les 40% des programmes, 50% des programmes devaient être corrigés pour qu'en seconde qu'il est 100%, en primaire qu'il est 100%. Ça passe par les entrants pédagogiques et didactiques et la motivation de l'enseignant. Elle est fondamentale.
D'accord. Merci, monsieur l'inspecteur. Nous retenons que les résultats sont de façon générale médiocres et ils cachent plusieurs disparités. Ils reflètent aussi le niveau des élèves qui n'ont plus l'esprit compétitif aujourd'hui. Plusieurs facteurs justifient les résultats, à commencer par le manque de niveau des élèves, le langage tenu par certains enseignants, la famille, le manque de sanctions de la part de l'État. Les dotations de l'État se font rares. Les enseignants manquent d'engagement à cause des conditions médiocres et du manque d'encadrement. Le système d'évaluation est peu efficace. L'éthique et la déontologie du correcteur fait échouer aussi certains candidats. Après l'échec, il y a le stress et lorsque l'enfant n'arrive pas à le surmonter, cela engendre des conséquences fâcheuses. L'échec doit permettre à l'élève de reconnaître ses erreurs et de se corriger à l'avenir. Pour améliorer les résultats scolaires, l'État doit songer à mettre les moyens conséquents dans l'éducation. Nous étions avec Dr Abdelwahab Soumana, socio-anthropologue
à l'université André Salufou de Zander, El Hadji Siraji, inspecteur pédagogique régional du secondaire, Hajia Ouma El Hadji Abani, cadre de l'éducation, parent d'élèves et actrice de la société civile aussi, Monsieur Koulibaly Abdourahmane, secrétaire général du syndicat des anciens du Niger, section de Zender, et enfin Monsieur Moussa Jibrila, médecin psychiatre donc à l'université André Salufou de Zender. Merci et au revoir.